Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur les chemins du vendredi qui vous emmène chaque semaine à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. La philosophie est-elle une vocation? Comment viennent les idées? Comment se fabrique un concept? Et quel rôle le philosophe doit-il jouer dans la cité? Voici aujourd'hui le portrait en acte et par lui-même du philosophe Alain Guyard. Bonjour Alain Guyard.
Bonjour Adèle.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci.
Je vous ai présenté comme philosophe, comment vous présentez-vous?
Je rajouterai quelques épithètes peut-être, si vous me le permettez. Philosophe forain, bonimenteur de métaphysique, décravateur de concepts, peut-être homme mental, mais uniquement le week-end et sur rendez-vous.
Ça fait beaucoup.
Oui, ça fait beaucoup, hein, mais faut tout faire pour vendre. Hein.
Forain, vous avez dit?
Forain, oui.
Pour
forain.
Vendre? Vous vendez votre âme, votre
métier? Écoutez, il me semble qu'il y avait un certain philosophe de l'Antiquité, c'était pas Lucien, je crois, qui avait écrit un petit texte qui s'appelait « Les philosophes à l'encan » et qui était assez mordant et qui montrait que le philosophe, quand bien même il a des prétentions à aborder les zones les plus éthérées du ciel des idées, il était aussi un petit peu articulé à la réalité et il y avait des concurrences entre les écoles de philosophie, à telle enseigne que Zeus avait fait un immense marché où les philosophes débattaient pour essayer d'avoir une promo peut-être sur le concept. Et il me semble même que d'ailleurs c'était le dieu Hermès, qui était celui qui facilitait la vente des têtes de gondole.
Mais philosophe, c'est un métier?
Je crois que c'est une posture, voire une imposture. Et peut-être aussi une position, mais si cette position, elle se réduit à une guerre de tranchées, il y a peut-être une erreur sur l'article. C'est pour ça que je préfère plutôt employer le mot de posture plutôt que position. On dit souvent du philosophe qui prend des positions intellectuelles ou qui prend des positions dans la cité. Peut-être qu'on en reparlera par la suite. Mais je pense que le mot posture est intéressant parce que interroger le philosophe, c'est aussi interroger sa pensée en tant qu'elle s'articule à une vraie situation dans le monde. Où est-ce qu'il est pour philosopher? Très concrètement, à quel endroit? Qui fréquente-t-il? Dans quel milieu évolue-t-il? Ça explique, je crois, autant ses idées que son rapport à autrui et son rapport au monde.
Mais on a 50 minutes pour faire votre connaissance à travers votre conception du métier ou de la posture de philosophe. Pour cela, on va remonter le cours de votre vie jusqu'à votre rencontre avec la philosophie. On va explorer les références philosophiques, mais aussi littéraires, musicales, cinématographiques, qui occupent votre esprit et peut-être logent dans votre cœur. Vous allez aussi nous introduire dans votre atelier de philosophe pour nous montrer avec quels outils vous fabriquez votre pensée. On va vous suivre en prison, à l'hôpital, sur les planches d'une scène de théâtre, là où vous pratiquez votre métier de philosophe. Et enfin, nous vous suivrons dans vos engagements, votre militantisme, ce qui nous donnera l'occasion de vous entendre sur le rôle que doit jouer le philosophe dans l'actualité, ou dans la cité, comme disent les philosophes. Alain Guyard, vous souvenez-vous de votre première rencontre avec la philosophie?
Et vous me posez une colle, chère Adèle. Je crois qu'il y a eu des rencontres multiples, et petit à petit, ça a commencé un petit peu à creuser. Vous savez, c'est comme l'histoire de la goutte d'eau qui est toujours plus forte que la pierre parce qu'il suffit qu'il en tombe plusieurs à répétition pour qu'à la fin le roc se rompe. Je sais pas s'il y a comme ça une espèce de rencontre à la manière de Moïse là-haut sur la montagne, mais j'ai eu, je crois, quelques moments forts comme ça. Je crois qu'un des premiers, c'était quand j'étais vraiment tout môme. J'habitais à côté des HLM dans la forêt d'Hôte et dans un petit patelin paumé comme ça. Et on était des gamins comme ça, admiratifs d'une espèce de grand échalas qui s'appelait Johnny Roussel. Et déjà Johnny Roussel, ça sent quand même le personnage d'un film belge un peu quand même, hein. Mais je vous assure que c'est tiré de mon existence, cette histoire-là. On avait quoi, à peine 10 ans à l'époque, et lui se vantait d'être un peu voleur de mobilette. Je crois même qu'il avait dû faire un peu de prison à l'époque. Et à l'époque, l'avenir était tout tracé pour les jeunes gens du village. Il y avait en bas du village une usine qui fabriquait des chaussettes, une usine de bonneterie qui fabriquait des chaussettes. Et Johnny Roussel a jamais voulu faire des chaussettes de sa vie. Et donc, il considérait qu'il y avait rien de plus indigne pour un homme que de s'abaisser à travailler. Donc, il s'était comme ça consacré au vol. Et je me souviens, un jour comme ça, on était toute une bande de marmots autour de ce héros local, allongé comme ça dans l'herbe tendre. Il avait ni chaud au creux de son bras une jeune donzelle qui nous faisait tous rêver comme ça. Et je me souviens encore de la scène. Il a montré ses mains. Il les a fait jouer comme ça dans l'azur, parce qu'il est allongé sur le dos, comme ça, comme nous autres. Et il nous a dit, voyez comme ça les mômes, bah, jamais ses mains, elles travailleront. Elles sont pas faites pour être abîmées par les machines, mais elles sont faites pour caresser le corps des jolies femmes. Et là, je me suis dit, mais ça veut donc dire que la vie, il peut y avoir pour la vie un autre horizon que le travail, il peut y avoir pour la vie un autre horizon que la reconduction et la répétition du même et que faire comme les parents ont fait. Et ça, je crois que ça a été un moment fondateur.
Et c'était déjà lié à la philosophie
Je
aussi.
pense que c'est lié à la philosophie parce que si vous voulez, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, ce brave Johnny qui a dû arrêter l'école avant de la commencer quand même, il faut dire les trucs, hein. Je pense pas qu'il nous poussait à voler des mobylettes ou à aller directement caresser les corps des gamines à 8 ans. Mais il essayait de nous montrer qu'il y avait un autre horizon pour la vie d'un homme que d'être une bête de labeur. Voyez? Il essayait de nous montrer que l'existence peut-être ne se limitait pas simplement à la sphère de la production, quoi. Alors il n'avait pas lu Hannah Arendt, mais je crois qu'il y avait quelque chose chez lui qui était de cet ordre-là, quoi. Peut-être la vie authentiquement humaine, c'est d'abord une vie qui échappe à ce monde de la production.
Mais vous auriez pu devenir poète, vous auriez pu devenir artiste, vous êtes devenu philosophe.
Ouais, ou voleur de mobylette, j'insiste, hein, mais je suis vraiment pas doué pour la mécanique, donc ça aurait été une catastrophe après, je pense.
Donc il y a bien eu un autre événement dans votre vie qui a fait que vous avez fait des études de philosophie, vous avez enseigné la philosophie.
Bah allez, vous en voulez un deuxième, c'est ça là, hein. Je sens que vous me travaillez au corps, mine de rien, Adèle. Hein.
Bah, là, j'ai pas encore la réponse à ma question.
Bon, alors je vais vous en donner un deuxième événement, je pense, et j'espère, qui a été partagé par nombre de nos auditeurs et auditrices. J'étais parti pour faire un bac sans goût ni grâce, un bac, je sais plus ce que c'était, éco à l'époque. Et j'ai eu le bonheur de rencontrer un prof de philosophie exceptionnel qui s'appelle Monsieur Michel Legrand au lycée Chrétien de Troyes, à Troyes.
Rien à voir avec le musicien.
Et non, pourtant à chaque fois que je fais des recherches pour remonter sur les traces de mon professeur, je tombe sur le musicien. Donc c'est quand même une grosse blessure, quoi. Et il y avait quelque chose qui était bouleversant chez lui, parce qu'effectivement, il portait témoignage d'une vie portée à une intensité plus belle, quoi. Hein. Je pense que, comme dirait l'autre, hein, bien sûr, on peut vivre sans philosopher, mais philosopher, ça rajoute une saveur à l'existence. Comme on peut effectivement passer un bon repas en buvant de la flotte, mais on peut passer un meilleur repas en buvant du vin. Et là, une fois encore, ça a été quelque chose qui a été très très chouette. Et je me suis dit, bon Dieu, peut-être que j'ai le droit de refuser de parvenir. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas, peut-être que c'est pas nécessaire de vouloir à tout prix parvenir à réussir quoi. Peut-être que plus important c'est pas réussir sa vie quoi. Avoir une ambition, c'est pas le plus important quoi. Mais la vivre comme ça avec la saveur du rapport à la philosophie, c'est peut-être ça quoi. Et donc, vous voyez, je rends grâce à Monsieur Michel pour ce qu'il m'a pu faire.
Puisque vous racontez votre enfance en Champagne,
ouais.
Dans la région de Troyes, on va entendre la voix d'un philosophe qui a beaucoup compté pour vous, qui n'était pas très loin, je crois.
J'ai peut-être doublement tort, d'abord d'avoir tenté de faire des livres de philosophie scientifique avec une volonté de rationaliste dans un monde qui n'est pas toujours porté vers le rationalisme. Du côté, et alors de l'imagination, je suis plus tranquille, parce que l'imagination, c'est à tout le monde. Je suis parti bien tard. La poésie, si vous voulez, c'est le don qui m'arrive de l'extérieur avec une singulière régularité. J'aimerais à ce que on sache qu'il y a toujours des poètes en France.
Qui venons-nous d'écouter, Alain Guyard?
Nous venons d'entendre la voix merveilleuse de Gaston Bachelard, philosophe de Bar-sur-Aube, et qui disait d'ailleurs que cette région était très très belle et très précieuse parce que elle est à la confluence et de la Bourgogne et de la Champagne. Alors mon petit cœur bat la chamade parce que moi-même, je suis un croisement de la Champagne et de la Bourgogne. Et puis Bachelard est quand même un bonhomme exceptionnel parce que il s'émerveille, quoi. Il a toujours eu cette disposition à s'émerveiller. Et moi, je suis rentré dans Bachelard par la petite porte du bouquin qu'il a écrit en 34. Tout petit texte. La flamme d'une chandelle. Et il fait partie des auteurs qui sont la goutte qui réussit à briser le roc. Parce que, quand il écrit ce bouquin, c'est un tout petit bouquin, hein, il doit faire 120 pages. Hein. Il le dit au début, je vais écrire un petit livre de sottises et je vais essayer de répertorier toutes les bêtises qui ont pu être écrites par des pseudo-scientifiques autour du feu. Et chemin faisant, au fur et à mesure qu'il avance dans son bouquin, il se rend compte que il se trompe lui-même et il croyait se moquer de l'obscurantisme pré-scientifique. Et voilà qu'il tombe sous le charme des alchimistes, des rêveurs, des poètes, des enfants. Et à la fin de ce texte, il dit qu'il a découvert en fait dans l'imagination l'aliment qui nourrit le psychisme créateur. Et moi, je trouve ça admirable, si vous voulez, parce que très souvent, on dit du philosophe qu'il est l'homme de la pensée ascétique, programmatique, avec une espèce de puissance de la volonté intellectuelle et rationnelle. Et en fait, Bachelard, c'est tout le contraire. C'est celui qui nous explique que oser philosopher, c'est s'ouvrir aux quatre vents de la pensée, être prêt à être déstabilisé par elle. Et ça, vraiment, c'est une idée que j'ai mis du temps à comprendre, mais je pense que Bachelard m'a mis en route là-dessus. Je pense que philosopher, c'est être prêt à s'abandonner à une errance bienheureuse dans les idées. C'est pas vouloir les organiser à la manière cartésienne, hein, puisque Descartes voulait que nous soyons philosophes, ceux qui savent gouverner la pensée. Il me semble qu'avec Bachelard, on comprend que le philosophe, c'est celui qui consent à se laisser gouverner par, qui se laisse pour ainsi dire déborder. Et c'est des belles figures, hein, vous savez qu'elles me sont chères, hein, c'est des figures de l'errance, du vagabondage. Mm-hmm. Et je pense maintenant vraiment que la philosophie, c'est d'abord un véritable consentement à l'errance spirituelle.
Et pourtant, vous avez étudié la philosophie, vous l'avez enseignée au lycée notamment, à l'université, donc vous avez suivi un cursus universitaire traditionnel.
J'ai suivi un
cursus... Loin du vagabondage.
Je suis pas si sûr que ça, parce que si vous voulez, très honnêtement, je me suis un peu tiré une balle dans le plié quand même quand j'ai commencé à essayer d'avoir entre guillemets une carrière philosophique, puisque le ce qu'on appelait à l'époque le mémoire de maîtrise et ce qui s'appelle le master 1, je l'ai pas consacré à Kant ou à Hegel ou à Platon histoire de me préparer à faire ma troisième partie triomphale sur mon agrégation de philosophie, mais je l'ai consacré en fait à ce que j'ai appelé l'expérience spirituelle celle. Et j'ai dédié ce manuel à Panoramix, donc si vous voulez c'est un peu moyen quand même comme mémoire, donc on peut pas vraiment dire que lorsque je me suis engagé dans les études de philosophie j'étais animé par une volonté d'être le maître de ma pensée. Et puis j'étais à l'époque avec toute une bande de joyeux branquignols qui philosophaient comme moi, d'abord pour retarder le moment d'aller un jour bosser, quoi. Donc c'était plutôt une compagnie de bras cassés et de pieds nickelés plutôt qu'une série de philosophes profilés pour postuler sur l'agrégation.
Et à quel moment avez-vous décidé de quitter la voie de l'enseignement et d'aller vagabonder, comme vous dites, avec vos mauvais garçons, d'écrire des livres, des romans, des textes de philosophie, d'enseigner la philosophie par quatre chemins?
Je pense que l'élément déclencheur, c'est le quatrième Gugus que j'ai rencontré. C'était Albert Cossery. Parce que je me suis quand même fait poisser par le système. À un moment, j'ai fait un peu le belâtre et puis j'ai commencé à me prendre au sérieux et j'ai fait de la philosophie comme un épicier vend ses boîtes de sardines. Je voulais faire une marge de bénéfice et puis être un peu rentable sur le coup. Donc j'ai commencé à me prendre au sérieux puis à faire des cours sérieux. Et là, bim bam boum, j'ai assisté à une intervention d'Albert Cossery dans une bibliothèque au Bois. Bah d'ailleurs, voyez, on quitte pas le pays, quoi. À Sainte-Savine à l'époque. Et Cossery a déboulé comme ça. Il était habillé dans un costume de lin beige, il portait un borsalino, il avait sa tronche de fennec avec ses yeux gris acier comme ça. Il fumait des goldiches monumentales, donc il s'enveloppait d'une brume. On avait l'impression que c'était un djinn sorti des déserts des pharaons. Et il était complètement princier, quoi. Il était complètement princier.
Albert Cossery, qui est l'auteur de notamment Mendiants et Orgueilleux, voilà, qui met en scène un personnage principal qui serait comme un Socrate des temps modernes qui vivrait en Amérique du Nord.
Oui, c'est ça.
En Afrique du Nord,
dans un Caire un peu rêvé, un Caire des années 50. Et là, je me suis rendu compte effectivement qu'avec Cossery, d'ailleurs, il l'avait dit à la fin de la conférence, il avait dit j'ai préféré la sérénité à l'ambition. Il l'a dit comme ça. Et ça a été vraiment un uppercut, quoi, qui a démarré à hauteur du creux épigastrique et puis qui a fini quand même sur la pointe du menton. Et ça m'a mis KO. Et là, je me suis dit qu'il fallait quand même que je me réveille et que je me sorte de cet affreux guépier qui allait me faire devenir philosophe professionnel.
Et là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris votre sac à dos, vous êtes venu avec un sac à dos et une canne, hein, comme je le précise,
ouais.
Toujours en chemin, et vous êtes allé écrire des livres?
J'ai interrompu ma thèse, je me suis enfui avec la bourse, Et je peux le dire parce que maintenant il y a prescription de toute façon. Donc,
Même si vous êtes sur une radio de service public, hein, l'État
bon,
vous écoute.
On le coupe, ça, d'accord, hein, on le coupe au montage. Et puis, bah oui, puis après, j'ai.
Vous avez écrit plusieurs ouvrages.
Ouais.
Alors, certains sont publiés sous pseudonyme.
Ouais.
Alain-René Königstein.
Ouais.
Pourquoi pas Alain Guyard? Il y en a d'autres que vous avez publiés sous votre vrai nom.
Mais parce qu'à l'époque, j'avais déjà, je pense déjà beaucoup de mal à assumer le statut d'auteur. J'avais beaucoup de mal à assumer une autorité, quelle qu'elle soit, sur moi ou en moi. Donc, il y a, je pense, ce premier élément. Et puis, l'autre élément que je trouvais intéressant, c'est qu'à l'époque, j'écrivais des espèces de brûlots ultra gauchistes et ultra confidentiels. Et je m'étais dit, pour qu'ils soient désirables et qu'ils puissent circuler sur le manteau, il faut qu'ils soient hors de portée, vous savez, c'est le vieux discours de Corneille en fait, hein. Pour que la chose soit désirée, il faut surtout qu'elle échappe au désir, quoi. Alors j'avais jamais lu Lacan, j'étais pas encore démarré, j'étais pas parti pour une psychanalyse, mais enfin il me semblait que c'était intéressant parce que le meilleur moyen de se faire voir, c'était d'échapper au regard. Mm-hmm. Donc ça procédait aussi un peu de cette démarche.
Et une forme plutôt littéraire avant de...
Une forme plutôt littéraire et d'ailleurs l'un des tout premiers textes que j'ai écrit, c'était un petit texte que j'avais pompeusement intitulé « Lettre du sous-commandant Marcos à son disciple sur les barricades ». Petit texte, une vingtaine de tableaux très brefs, à la manière un peu d'écrit gnostique égyptien du second siècle. Donc j'aime autant vous dire que du lectorat comme ça, il n'y en avait pas beaucoup quand même. Et par le plus grand des hasards, ce bouquin est tombé parce que je l'avais sorti dans les années où il y a un moment il y avait la révolution zapatiste. Et il est tombé entre les pattes du commandant Marcos et il l'avait diffusé à quelques-uns de ses amis qui étaient des Indiens chiapatèques. Et ce texte faisait référence effectivement à des éléments de la culture indienne. Et ça m'a bouleversé, quoi, ça. Ça m'a bouleversé. Ça m'a fait dire que finalement, les chemins de traverse, c'est peut-être aussi des chemins qui sont peut-être pas les sentiers de la gloire, mais en tout cas, quelque part aussi les itinéraires bis par quoi il peut y avoir des ravissements et des étonnements absolument délicieux, quoi.
Alors avant qu'on vous emboîte le pas sur ces chemins de traverse, encore une dernière figure qui a compté pour vous et qui peut-être représente pour vous ce que devrait être la philosophie aujourd'hui. Malheureusement, on ne peut pas l'entendre, sa voix ne nous est pas parvenue. Alors c'est le comédien de cette émission, Georges Claisse, qui lui a prêté sa voix. Écoutez ces mots, je pense que vous le reconnaîtrez.
Quand mes fils seront grands, punissez-les, citoyens, en les tourmentant comme je vous tourmentais, pour peu qu'ils vous paraissent se soucier d'argent ou de n'importe quoi d'autre, plus que de la vertu. Et s'ils croient être quelque chose alors qu'ils ne sont rien, adressez-leur le reproche que je vous adressais, de ne pas se soucier de ce dont il faut se soucier, et de se croire quelque chose alors que l'on ne vaut rien.
Quand mes fils seront grands, punissez-les. C'est ce que Socrate dit sur le point de boire la ciguë et donc de mourir. Et ce souffle qu'il tient à maintenir jusqu'au bout, un souffle à la fois provocateur, disruptif et toujours fécond pour la pensée, pas étranger à ce que vous cherchez dans la philosophie, Alain Guyard.
Oui, ah bah la figure socratique, elle est vraiment fascinante. Moi j'y reviens sans cesse, j'arrive pas à épuiser le Gugus, c'est plutôt lui d'ailleurs qui m'épuise, mais c'est délicieux. On sait bien en plus que le bonhomme est assez remarquable parce qu'il a rien écrit, donc n'ayant rien écrit, il nous laisse toute latitude pour que nous puissions écrire tout et n'importe quoi à son sujet. Donc ça nous permet quand même une grande licence poétique et pourquoi pas après tout. D'ailleurs, il me semble bien que on s'accorde quand même depuis quelque temps pour reconnaître que la figure socratique est aussi quelque part une figure littéraire, hein, qui était très 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 courue après la mort de Socrate pendant plus de 20 ans. On écrivait des récits socratiques, c'était aussi finalement une figure fictionnelle qui a pu beaucoup nourrir des imaginaires. Et ma foi, moi je suis pas du tout insensible au bonhomme Socrate, d'autant plus que, si vous voulez... Il faut se méfier de la rationalisation socratique, hein. C'était Grimaldi, je crois, qui avait sorti il y a quelques années un
Nicolas
petit bouquin,
Grimaldi, hein, oui, philosophe contemporain.
D'ailleurs, il avait donné un titre qui était complètement bidon parce que son bouquin l'avait appelé Socrate le sorcier. Et la vérité là-dedans, il disait exactement le contraire. Il disait que Socrate était justement le maître du langage et après il enfilait toutes les choses auxquelles on est accoutumé, selon laquelle là où il y avait du Socrate, il y avait de la rationalité, de la construction de concepts et tout. Mais j'aime bien retourner du côté de Jean-Pierre Vernant qui dit avant que Socrate soit le premier des rationalistes, il est d'abord le dernier des chamans. Et je pense qu'il se joue chez Socrate quelque chose qui est de l'ordre quand même de l'amberlifico, quoi. Ce mec, il a quand même une capacité à user du langage À la manière d'un camelot de fête foraine ou d'un pickpocket, vous voyez, qui est dans le boniment, qui est dans une espèce de parole comme ça, qui fait que à la fin on perd pied. D'ailleurs, bon, nombreux sont les textes qui le reconnaissent, hein, quand on dit de Socrate qu'il est ce poisson torpille ou qu'il est le taon qui pique. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On n'est pas en train de nous dire que Socrate est l'homme qui nous éveille à la vérité par des démonstrations rationnelles, grâce à quoi nous arrivons à la clarté en notre esprit. C'est tout le contraire. Donc je crois qu'il y a chez lui quelque chose qui est de l'ordre, comment dire, de la déconstruction des structurations, des ossifications rationnelles, conceptuelles. Il me semble que, loin d'être d'ailleurs un maître de la raison, je pense que c'est d'abord le maître qui parvient à briser les ratiocineurs et qui laisse faire advenir le grand souffle de l'esprit là où en face de lui il y a des philosophes, au sens où on pourrait les entendre aujourd'hui, c'est-à-dire des maîtres de la pensée maîtrisée.
Et vous seriez prêt, comme lui, à boire la ciguë, par respect pour la démocratie?
Non, jamais de la vie. Attendez. D'ailleurs, je pense que c'est encore un gros numéro d'Esbrouf. Et c'est ce que dit d'ailleurs Jean Kelevitch dans son texte sur l'ironie, hein. Puisqu'il dit à la fin que Socrate est prêt à boire la ciguë, non pas par héroïsme, mais pour elle être toujours plus loin encore dans la bouffonnerie et pour scandaliser. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre. Alors qu'il aurait pu ne pas boire la ciguë.
Puisque la philosophie ne se fait jamais à partir de rien, ni d'un pur esprit, mais aussi à partir d'un corps et d'expérience, on va entrer dans votre tête ou dans votre cœur, et la première chose qu'on trouve, une des premières choses qu'on trouve, si on va du côté de votre oreille, c'est ça, ou c'est lui.
Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry.
Vous écoutez Johnny Cash sur France Culture, les chemins de la philosophie, en compagnie du philosophe Alain Guyard. Johnny Cash, ou plus précisément la chanson Folsom Prison Blues, un enregistrement qui a eu lieu à Alain Guyard le 13 janvier 1968 à la prison de Folsom en Californie. Et dans cette chanson, il parle d'un homme qui a commis un meurtre et depuis sa cellule, il écoute le sifflement d'un train et repense à ses crimes. Pourquoi Johnny Cash vous parle-t-il autant ?
Eh ben, c'est mon Johnny Roussel à moi. Ça fait maintenant plus d'une quinzaine d'années que je fais de la prison.
Donc, c'est-à-dire que vous faites de la prison.
Que je fais de la prison, que je descends en prison pour y faire de la philosophie, que je descends en détention pour y faire de la philosophie.
Vous dites faire de la prison.
Oui, je sais pas. Ouais. Ouais, je descends en détention. Et dans toutes les prisons de France et de Navarre. Et je vous assure que c'est quand même très très bien de faire de la philosophie en prison, parce que vous tombez face à des gens. D'ailleurs, on en avait parlé ensemble, si j'ai bonne mémoire. Hein,
il y a quelques années, hein, à ce micro, c'est vrai.
Ouais, en effet. Hein, pour qui la philosophie, elle revêt un caractère viscéral, le rapport entre le bien et le mal, le rapport entre le juste et l'injuste, le rapport au temps qui passe ou au désir, c'est quelque chose qui les traverse existentiellement. Donc la philosophie la prenne immédiatement au sérieux. Et ça, c'est quand même chouette. C'est pas du tout un marqueur social comme parfois ça peut avoir l'air quand on est à l'extérieur. Quand on est en prison, en fait, tout de suite la philosophie ça match. Et puis moi j'aime bien cet enregistrement parce que en plus il y a quelques temps de ça, avec un ami au centre pénitentiaire de Châteauroux, prison de Saint-Maur, le camarade en question voulait monter un festival Johnny Cash en prison et faire défiler des groupes de rock dedans, et j'étais parti sur l'affaire parce que j'étais déjà intervenu à plusieurs reprises à la prison. D'ailleurs, je vais sans doute intervenir en 2019 là-bas. Ça fait plusieurs années que j'interviens là-bas. J'étais intervenu aussi pour travailler avec des djihadistes. en les faisant bosser sur le rapport à la peinture. Et puis on avait monté là-bas aussi un atelier de tatouage. C'était le seul atelier de tatouage en prison, ouvert en France. Il y en a au Canada, sinon.
Et pourquoi un atelier de tatouage? Quel rapport?
Parce qu'en fait, ça faisait des années qu'on bossait avec Jean-Marc Brumand. Je peux le citer au micro. Ça faisait des années déjà qu'on travaillait avec des prisonniers qui devenaient et qui étaient des artistes plasticiens, car depuis plus de 4 ans, ils peignaient tous les soirs. Et donc, ils étaient vraiment dans un rapport consommé à la peinture, à telle enseigne qu'à la fin, leurs œuvres ont été exposées au musée d'Issoudun. Et moi, j'étais intervenu auprès d'eux pour interroger ce qui se jouait dans ce que c'était que le statut d'un artiste. Est-ce qu'il fallait appartenir à une classe sociale? Est-ce qu'il fallait passer par les beaux-arts pour être un artiste? Est-ce qu'il fallait être reconnu par un musée ou pas? Donc c'était vraiment des questions qui étaient profondes pour eux. Et puis ils se posaient aussi la question de savoir si il y avait des matériaux nobles en peinture. Est-ce qu'il fallait nécessairement passer par une toile, de la gouache? Parce qu'à l'époque, ils avaient plus de moyens. Donc en fait, ils récupéraient l'huile des boîtes de sardines, ils faisaient gicler dedans des tubes de stylo bic rouge, noir et bleu, ils touillaient tout ça pour faire en fait de la peinture à l'huile. Ils avaient plus de toile, donc en fait, ils récupéraient des draps, ils les punaisaient sur des châssis d'armoires brisées et ils continuaient de peindre contre vents et marées. Et ils se disaient, mais pourtant, on peint avec des choses qui sont pas des choses nobles comme de la vraie peinture. Est-ce que ce que l'on fait, c'est du bricolage ou c'est vraiment de la peinture? Et donc, c'était passionnant de se poser cette question.
Mais là, vous êtes plus du côté du prof d'art plastique que du prof de philo, quand vous faites ça.
Oui, mais en même temps, les questions fondamentales qui étaient derrière, c'était, est-ce que l'art peut travailler avec des matières ignobles?
Ça, vous engagez cette discussion avec les détenus?
En direct. Et très logiquement, à un moment, la question qui a été abordée, c'est, et qu'en est-il de la peau humaine? Et qu'en est-il de l'encre? Et au nom de quoi le tatouage ne serait-il pas un art majeur? Et c'est dans ce processus-là que l'atelier de tatouage a été ouvert. Non pas comme étant le lieu dans lequel on se marque la peau pour se décorer, mais en tant qu'elle est la continuation d'une exploration esthétique sur ce que c'est que le statut d'une œuvre d'art. Et les mectons qui tatouaient là-dedans étaient des types qui, pendant 4 ou 5 ans, travaillaient au pinceau dans les ateliers.
C'est là où vous avez fait vos tatouages?
Non, tout cela, il datait d'avant.
Et qu'est-ce que ça change d'enseigner? Enfin, je ne sais pas si vous parlez d'enseignement d'ailleurs, quand vous parlez de philosophie en prison, c'est de l'enseignement? De la discussion? Vous êtes comme Johnny Cash dans la cantine de l'établissement et...
Je ne sais pas quel nom lui donner.
Il y a une urgence différente?
Il y a une urgence. Il y a une urgence. C'est-à-dire, on temporise pas. On temporise pas et on y va cash. Comme dirait Johnny.
Ouais. Et ça change vous-même votre rapport à la philosophie?
Ah, bah oui. Parce que vous pouvez pas prendre des positions qui sont des impostures. Vous pouvez pas prendre des positions intellectuelles qui sont des impostures. Par quoi vous allez maintenir le creuset social, le fossé social, pardon, entre vous et eux? Vous pouvez pas venir avec une érudition pompeuse que vous allez leur exposer, pourquoi vous leur rappeler que au fond vous êtes le propriétaire d'un capital symbolique qui fait que vous n'êtes pas dans le même monde. Et puis les questions sont des questions qui sont à brûle pour point puis qui les concernent au premier chef.
Dans votre tête, on trouve alors une référence à la prison par le biais de Johnny Cash, mais aussi beaucoup de nature et une certaine façon d'habiter la nature. Écoutez.
Mitaine et Nathalie ont décidé de vivre en marge dans les années qui ont suivi mai 68. Ils croient toujours aux vertus d'un retour à la nature. Depuis bientôt 20 ans, ils demeurent là, sans eau courante ni électricité, sur ce versant peu ensoleillé des Pyrénées. Le hameau le plus proche est à 1 heure de marche. Le premier commerce se situe encore 20 km plus loin. Mitaine a construit cette maison de ses mains. Elle abrite aujourd'hui les 9 membres de la famille. Les 4 filles et les 3 garçons, tous nés ici, ont entre 2 et 14 ans.
Vous avez l'air tellement heureux d'entendre cet extrait, Linguière. Vous avez bondi en studio en entendant les premiers mots. Qui sont Mitaine et Nathalie et que font-ils?
Écoutez, on vient d'entendre un passage du documentaire réalisé il y a quelques années de ça par Thierry Lanfranchi, qui est un documentariste exceptionnel et qui a passé des mois, des années auprès de nos deux compères, qui sont des gens qui, après 68, comme ça a été rappelé, ont décidé d'un retour à la nature, mais alors un retour à la nature de chez retour à la nature, quoi. Hein. C'est-à-dire que il y avait chez eux l'idée selon laquelle, bien sûr, ils se jouaient dans la civilisation quelque chose de corrompu, de corrompant, et il fallait retourner aux origines. Alors des fois, vous savez, on dit voilà, Rousseau est un des premiers théoriciens du bon sauvage, même si c'est bien sûr beaucoup plus compliqué que ça. Mais alors il y a peut-être des théoriciens, mais alors il y a des gens qui sont dans la mise en pratique, mais alors ultra quoi, c'est des gens qui sont des salafistes de Rousseau, si vous voulez, qu'on a un peu devant nous là. Donc effectivement, ils ont vécu dans la montagne, ils étaient loin du monde, c'est le titre du documentaire de Thierry Lanfranchi. Mais à telle enseigne que, par exemple, à l'époque, Mitaine refusait de porter des lunettes avec des montures de plastique ou de métal, et donc il s'était fait faire par un menuisier des montures en bois pour faire tenir ses lunettes.
Donc ils vivent dans les Pyrénées, ouais. Sans eau courante, sans ouais. Électricité, avec leurs 7 enfants.
Avec leurs 7 enfants, je crois qu'ils sont venus qu'avec un seul texte, qu'est la Bible. Et puis il y a ce pari dément de retourner à un état premier. Il y a le oui, c'est vraiment dément.
Ça vous parle ça?
Ben si vous voulez, ce qui me parle, c'est pas ça, parce que je pense que c'est une erreur. Il y a jamais d'homme à l'état naturel et l'idée de nature est une construction culturelle. Mais par contre, ce que je trouve intéressant, si vous voulez, c'est qu'on est une fois encore confronté à des existences qui, dans leur concrétude, sont des situations absolument philosophiques. De la même manière que, par exemple, vous descendez en prison, et quand vous descendez en prison et que vous racontez l'histoire de Socrate et que vous racontez que Socrate boit la ciguë alors que Criton a ouvert la porte et qu'il a cassé Natchaf, comme dirait l'autre, et puis on n'en parle plus, Socrate reste, vous dites ça à des détenus, j'aime autant vous dire, qu'ils vous regardent d'un autre œil, puis après ils vous demandent quand même à rendre des comptes par rapport à la philosophie. De la même manière, si vous voulez, c'est quand même intéressant de se coltiner la vie de Mitaine, de penser ce type pour voir ce qui se joue par rapport à la nature. Et moi, j'aime bien des rencontres comme ça là. Alors, c'est une rencontre cinématographique, mais peu importe. Au fond, moi, j'aime bien des rencontres avec des gens qui vous mettent au pied du mur de la philosophie. De la même manière, si vous voulez, j'entends beaucoup des gens qui aujourd'hui disent que la philosophie a des vertus thérapeutiques et qui invoquent Épicure et tout ça. Ok, banco. Mais alors qui descendent dans l'hôpital psychiatrique et puis qui se coltinent du schizophrène et puis vendent du cul dans la tourmente, qui discutent avec des schizophrènes et puis qu'il y a un vrai débat avec eux sur effectivement en quoi la philosophie peut les sauver et jusqu'où. Vous voyez?
Ça, vous le faites, vous?
Ah, moi, je le fais. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est pour ça que tout à l'heure, en introduction à notre propos, j'essayais de vous dire que pour moi, la philosophie, c'est pas un métier, mais c'est une posture. Au sens où, quel poste j'occupe, quel poste je tiens, comme dans la caisse, Socrate qui discute avec la caisse et la caisse qui dit, le courage, c'est savoir tenir son poste. Ben, je pense que la philosophie, c'est un vrai courage, quoi. Et le courage intellectuel, c'est comme il disait Foucault, c'est d'abord un courage physique. Quand Foucault, il dit, il y a des choses à penser du côté de la détention, en 72, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il descend devant la prison de Meaux, si je dis pas de conneries, et il y a les flics en face. Et donc, il y a un cordon de CRS d'un côté, l'autre côté, il y a un cordon de philosophes, puisqu'il y a Foucault et puis Deleuze, et puis, ma foi, ils finissent dans le panier à salade. Ça, c'est une posture philosophique, vous voyez? Et moi, je trouve que c'est intéressant quand la philosophie, elle se coltine le réel, et elle descend dans des situations qui la provoquent, ou elle provoque des situations qui la mobilisent et qui la convoquent. Et pour moi, la philosophie, elle a du sens, sitôt qu'on va la confronter front à front avec des gens pour qui elle va devenir viscérale, c'est-à-dire c'est se coltiner le détenu, c'est se coltiner le malade mental, c'est se coltiner, je sais pas moi, le paysan bio qui est pris à la gorge par Nestlé et Monsanto et qui voudrait essayer de sensibiliser à sa cause les consommateurs qui vont visiter son champ. Et donc bah là, je viens auprès de lui pour travailler avec lui sur ce qui se joue dans le rapport à la nature. Et
vous pourriez le faire avec un chef d'entreprise millionnaire?
Eh ben, écoutez, des fois, il y a des gens.
Citer une telle rencontre. Ça, vous citez surtout des marginaux, des gens qui vivent en marge de la société, mais finalement, cette rencontre-là avec la philosophie peut avoir lieu à n'importe quelle occasion et peut-être éveiller ou susciter chez n'importe qui.
Ah, moi, je pense que c'est à n'importe quelle occasion. Est-ce que je peux avoir l'outrecuidance de citer mon dernier bouquin
Je vous en prie, Natchav.
Ouais, Natchav.
L'édition de Dilettante.
Voilà, il est sorti, il est tout chaud, encore sorti des presses. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a un chapitre où je raconte que j'ai été effectivement invité par une énorme boîte qui fait dans la bricole, dans le bricolage de proximité. Et à l'époque, alors ils font des espèces de happening délirants, hein, ces boîtes-là, hein, où ils inventent des formules où il faut danser, chanter, pleurer, communier, il y a des pluies de ballons et de confettis, etc. Et une fois, j'avais été sollicité pour intervenir là-dessus. Et tous ces lascars, en fait, derrière, ils ont qu'une idée, c'est bien sûr le bonheur d'aller bosser, quoi. Mmh. Et eux m'avaient mobilisé, et dans le cahier des charges, c'était réfléchir avec ces gens-là à la question du travail. Et moi, j'avais dit banco, mais vous me connaissez et tout. Moi, je vais pas dévier d'un iota. Je vais faire de la philosophie avec ces gens. Ils me disent OK. Et d'ailleurs, dans le contrat, ils avaient dit venez comme vous êtes. Ces couillons, ils avaient repris le slogan de McDo, tu vois. Le truc à pas dire à un philosophe. Et donc, j'y suis allé franco de port. Et donc, j'ai vraiment, effectivement, abordé la question du travail en montrant qu'il se jouait quelque chose de l'aliénation.
C'est ce qu'ils voulaient.
Pas vraiment, parce qu'en fait, à l'époque, le magasin au niveau national avait été racheté par une plus grosse boutique. Il devait y avoir du dégraissage de personnel, et ils voulaient mobiliser, enthousiasmer ces gens qui commençaient à avoir le moral un peu miné. Donc, le moral était miné, mais je l'ai un peu plastiqué quand même à la fin, quoi. Hein. Ça a été une vraie jouissance, quoi. Ça a été une vraie jouissance. Mais j'ai un peu flippé ma race parce qu'ils ont mis du temps à me payer, quand même. Hein.
Vous n'êtes pas chef d'entreprise, mais vous avez bien un atelier dans lequel vous écrivez, et beaucoup. Vous avez cité votre dernier livre, Natchav. Sous les yeux, j'en ai plusieurs, toujours publiés aux éditions du Dilettante, hein, La Soudure, La Zonzon, Les 33 leçons de philosophie par et pour les mauvais garçons. Si on entre dans votre atelier, je ne sais pas si on y trouve des flingues, mais il y a fort à parier qu'on entende ce genre de choses.
Non, mais t'as déjà vu ça? En pleine paix. Il chante et puis il craque un bourre-pif. Mais il est complètement fou, ce mec!
Mais moi, les dingues, je les soigne.
Je m'en vais lui faire une ordonnance.
Et une scellée. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile.
Les tontons flingueurs de Georges Lautner, c'était en 1963. Et ce qu'on vient d'entendre, c'est l'argot.
Oui.
Alain Guyard. Et l'argot, c'est un mot qui vous est cher. Natchav, c'est le titre de votre dernier livre, ça veut dire quoi?
Natchav, en fait, c'est un mot manouche à l'origine, c'est du rhum. Natchav, c'est un verbe, hein, tous les verbes en rhum, ils se finissent par ave. Et ça veut dire s'enfuir, se barrer, là, c'est la décarade, c'est prendre la route.
Et vous aimez bien tous ces mots qui sont, dont on change le sens, qui sont comme des outils, là, dans le dialogue
des tontons
flingueurs, ils se disputent avec les mots.
Ah oui, c'est des outils, c'est une poésie, et puis c'est des mots qui sont à double entrée, à trois sorties, hein, c'est comme les boîtes de nuit louches où il y a toujours une entrée pour les flics et une sortie pour les bandits, quoi. Et les mots d'argot, ils sont porteurs d'une magnifique poésie, puis d'une ambiguïté toujours. Le mot, il est toujours ouvert à la polysémie. Mais c'est joli parce que c'est une poésie qu'une poésie populaire, en définitive. Et moi, j'aime bien mettre ça aussi dans ce que j'écris. C'est-à-dire que c'est quand même triste, une langue qui se réduit à du communicationnel et puis dont le sens est un sens unique ou un sens interdit. Donc, ma foi, en ouvrant un peu la langue comme ça à l'argot, ma foi, on remet du populaire, on remet de la verdeur et puis de l'ambigu dans tout ça. C'est sympa.
Et quand vous avez décidé de commencer à écrire, l'argot s'est imposé à vous ?
Ben, en fait, très honnêtement, je me suis pas du tout posé la question.
Ouais.
Le bouquin La Zonzon, dans lequel effectivement la plume s'est lâchée pour moi. Et je dis ça vraiment à volonté, c'est-à-dire que ça n'a pas été une démarche réfléchie que de dire allez tiens je vais écrire comme ça en langue verte. J'ai écrit de cette manière, et puis tous les copains, les copines, ils m'ont dit ah bah c'est rigolo parce que quand on lit ton bouquin, on te retrouve bien, quoi. Donc il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la sincérité, quoi. Il y a
ou de la posture.
Ouais, de la posture, de la sonaille. Il y avait vraiment mon son de cloche de vache normande dans cette histoire, quoi. Voyez. Après, je l'ai pas cherché, quoi. Ça s'est vraiment, pour ainsi dire, imposé à moi.
Et quand vous écrivez, est-ce que vous êtes guidé par le souci de vous adresser à certains types de personnes, ceux qui ne seront pas désarçonnés par l'argot, ceux qui pourront le comprendre, ceux au contraire que ça va choquer?
Non, parce que c'est difficile d'écrire en ayant l'idée qu'il y a un public. C'est très mystérieux, ça. D'ailleurs, c'est, je crois, une des raisons qui fait que, finalement, écrire, pour moi, en tout cas, c'est quand même un peu difficile parce que c'est une adresse qui est quand même drôlement mystérieuse, quoi. On écrit toujours pour, hein. On écrit jamais, même si on écrit pour soi, on écrit toujours pour. Donc, y a un mouvement de la main, il y a un mouvement de la plume qui fait qu'elle s'échappe de soi. Alors, à chaque bout de ligne, elle revient à soi, mais c'est pour repartir.
Donc, vous écrivez à la main?
Comment?
Vous écrivez à la main?
Ouais, j'écris pas mal à la main. Après, je recopie sur l'ordi, mais je démarre pas mal à la main. Mais ce mouvement de la main, il est quand même très étrange, si vous voulez, parce que c'est comme si la main s'échappait de soi. Alors après, vous prenez peur et puis vous ramenez la main à vous et puis bordel, hop, elle s'échappe encore, elle repart. C'est exactement le contraire de Homer. Homer, c'est l'histoire heureuse du mec qui revient à Ithaque. Et je crois que le travail de l'écriture, c'est l'histoire malheureuse du mec qui trouvera jamais Ithaque. Parce que dès qu'il y revient, il reprend la mer. Vous voyez un peu le truc? Et c'est un peu ça, si vous voulez, l'écriture. On écrit toujours pour, mais on sait jamais pour qui, pourquoi et à quelle fin. Enfin, en tout cas, moi, ça me tord un peu le bit, ce truc. Donc, je suis jamais en paix là-dessus. Et quand j'écris, je sais pas à quelle fin. Je sais pas quel est le destinataire.
Et ça correspond à quel besoin?
Et non plus. Je sais pas non plus à quel besoin ça correspond. Donc, on n'est pas rendu dans le truc.
Vous avez un rituel d'écriture?
Non. J'ai essayé, je me suis dit, je vais faire comme trop les mecs qui se la pètent et tout, les machins. Ils ont leur bureau, ils ont le chat au pied du bureau, ou alors ils ont les pagnoles, ils ont la Pléiade derrière eux, ils ont le plaid de Léoto posé sur leurs genoux cagneux, et tout ça, mais j'y arrive pas. J'ouvre l'ordinateur et puis je fais des jeux à la con sur Kongregate, je vais sur Facebook, enfin c'est une horreur, quoi. Déjà, faut que je quitte la maison parce qu'à où je fais la cuisine ou je regarde trois conneries à la télé et tout, donc c'est pas possible. Alors après, je me dis, tu sors de chez toi, et puis quand vous allez au bistrot, en fait, ben, c'est pas vrai, vous écrivez pas au bistrot. Alors, puis vous connaissez du monde, alors c'est pas possible, quoi.
Et donc, vous allez où?
Ben, en fait, j'arrive à bien écrire quand je suis dans le TGV, dans le train, quand je suis dans les bus. Là encore, tout à l'heure, j'y étais ce matin. C'était vraiment, j'ai bien écrit ce matin entre 8 et 9. Parce qu'en fait, vous êtes une espèce de bulle. Voyez? Une bulle, il y a personne qui vous parle, les gens, ils dorment, ou alors ils s'abandonnent, il y a une espèce d'état languide pour tout le monde. Une espèce de stase, à la fois temporelle et sociale, où vous vous autorisez comme ça une mise en parenthèse. Et là, j'arrive à bien écrire. J'arrive à bien écrire aussi dans les petites chambres d'hôtel un peu miteuses, aussi ça marche bien. Puis des fois, il me prend un affolement terrible. Alors là, je m'isole, je demande à un copain qui me prête une piole quelque part, puis je m'enferme 15 jours en disant, mais j'arriverai jamais, il faut vraiment que je m'y mette. Et là, j'écris comme un donné. Mais c'est rare, c'est très exceptionnel.
Et vous avez envie parfois de retoucher vos livres, un livre qui est déjà publié, de vous dire, mais là, oui, vous auriez aimé intervenir,
oui,
à nouveau?
Oui, parce que je me rends compte, il y a des trucs qui sont pas bons, il y a des trucs sur lesquels j'aimerais revenir. Mais bon, il faut pas, hein. Et c'est comme il disait Borges. Borges disait, écrire, c'est mettre un point final. C'est joli aussi, hein. Mais c'est tragique, hein. C'est tragique, hein. Écrire, c'est tragique, hein.
Pourquoi tragique?
Eh, parce qu'à la fin, c'est fini. Comme dirait la palissade.
Mais ça recommence.
Et on en fait un autre. Mais comme disait le bon vieux maître Bachelard, en fait, on écrit toujours le même livre, mais sans cesse on le recommence pour le bonifier.
C'est vrai. C'est ce que vous faites?
Je pense.
Et si c'est le même livre que vous écrivez, quelle est la question à laquelle vous essayez de répondre à chaque fois? Il y a bien une chose qui vous anime, qui vous occupe.
Ben ça, je pense que je le saurai quand j'aurai écrit le dernier livre. Ce qui est d'ailleurs pas mal, parce que ça va obliger les gens à acheter tous les autres avant.
On va vous suivre si on sort de votre atelier en mouvement, hein, le bus, le TGV ou peut-être la chambre miteuse, et qu'on voit, alors vous avez beaucoup parlé de votre activité de philosophe en prison, auprès des malades, dans certains lieux bien différents que sont ceux des salles de classe. Comment est-ce que vous concevez le rôle du philosophe dans le présent, c'est-à-dire par rapport, votre rôle de prof de philo qui va parler aux prisonniers, qui va parler aux détenus, qui va parler aux malades. Est-ce que c'est une manière de s'engager? Ou c'est vraiment par amour pour la philosophie? Est-ce qu'il y a un engagement derrière tout ça, voire même une forme de militantisme?
Non, je vais pas me la péter en disant le gars, il est parti pour sauver le monde, il se sent investi d'une responsabilité.
Et pourquoi pas?
Oh, parce que faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a pour quiconque philosophe, il y a un vrai plaisir à philosopher déjà. Il y a un vrai bonheur de philosopher, et ce qui est vraiment incroyable, c'est que ce bonheur de philosopher, il se transmet à celui à qui vous donnez les clés pour qu'à son tour, il se mette à philosopher. Il y a une vraie jubilation philosophante. Alors, peut-être que, pour jouer avec Spinoza, puisque je parle de jubilation et de joie, peut-être que la joie que provoque l'activité philosophante chez soi et chez ceux avec lesquels vous la faites, peut-être que ça change les affects, ça vous déploie votre être, ça déploie l'être de l'autre, et ça, c'est aussi du politique, parce que c'est changer le rapport à autrui, c'est changer le rapport d'autrui à la culture, et c'est modeler, modifier, transformer les rapports sociaux en tant qu'ils sont irrigués par l'activité philosophante, les changer à l'avantage de tous ceux qui en font. Donc si vous voulez, je renverserai votre question. Alors j'ai répondu de manière affreusement pédante, mais c'est un peu peut-être pour dégonfler un peu quand même la baudruche du philosophe qui s'engage dans la cité. Je crois que je suis pas le philosophe qui s'engage dans la cité, qui milite et tout ça. Mais je crois que philosopher, c'est une belle activité de subversion politique. Et c'est une joyeuse activité de subversion politique.
Comme le faisait Socrate d'ailleurs à ce moment-là. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un malentendu quant au rôle du philosophe qui devrait nous venir en aide, nous apporter du sens, cette mode de la philo dont nous parlons aujourd'hui?
Il y a un très très gros malentendu. Hein. Alors effectivement, on sait déjà que la philosophie aujourd'hui prend peu à peu le chemin du développement personnel. La philosophie, elle a de la valeur pourvu que cette valeur soit pensée en des termes, d'augmentation du capital, quoi. Hein, du capital culturel, symbolique, etc. Alors que, il me semble que la philosophie, c'est exactement le contraire. La philosophie, c'est vraiment ce qui vous ramène à l'os. Philosophie, c'est se dénuder, se mettre dans un état de dénuement complet. Hein. Moi, ce que je trouve vraiment très très chouette avec la philosophie, c'est que vous vous chopez un mecton en face de vous, vous commencez à philosopher, et à la fin, le gars, il repart quand même avec une main devant, une main derrière. Quoi. La vérité, c'est qu'il a perdu, si ça s'est bien passé, il a perdu ses préjugés, il a perdu les choses desquelles il était certain, les choses auxquelles il tenait ou qui le faisaient tenir, et voilà que perdant béquille, sac à dos, armure et bouclier, ben voilà qu'il est condamné à la légèreté et il titube comme un homme ivre ou comme un enfant. Et là, enfin, il connaît peut-être une liberté de mouvement qui s'était pas autorisée auparavant. Mais pour ça, il faut commencer par quoi? Il faut commencer par tout perdre. Je crois que la philosophie, c'est d'abord cette opération par quoi on désosse, on dénude et on se débarrasse, on désapprend. Or, aujourd'hui, elle est toujours présentée comme quelque chose qu'on a intérêt à faire. Il me semble qu'on philosophe bien si on y va dans une posture qui est celle du désintérêt, de la gratuité et du renoncement à en tirer du gain. Hein. Philosopher, c'est le seul hold-up fait par quelqu'un sur autrui au terme duquel les deux sont plus riches de leur pauvreté. On pourrait dire ça, non?
Oui, alors, on pourrait le dire, mais surtout, où faudrait-il le dire? Parce que c'est ça ma question. C'est où se trouve le philosophe là dans cet espace-là? Qu'il le fasse à titre inter-individuel, c'est une chose. Auprès de certaines personnes plus ou moins marginales, c'en est une autre. Est-ce que ce que vous dites, le philosophe devrait occuper l'espace public, devrait occuper l'espace médiatique?
Mais bien sûr. Mais c'est pas incompatible. C'est pas incompatible.
C'est pas incompatible.
C'est pas incompatible. C'est vrai que les exemples qu'on a pris de mes postures hein, laisseraient entendre qu'elles sont toujours sur les marges. Mais en même temps, j'interviens aussi. Il y a trois semaines, j'étais sous un barnum en Bretagne dans un festival au milieu du Chouchen et de l'Andouille de Guéméné et on était sur une salle comble dans un festival qui était d'ailleurs un festival d'humour où Il a fallu que j'envoie à la fois du lourd et puis du dense et puis du subtil. Et je crois pas que ce soit incompatible. Mais une philosophie peut être, on va dire, populaire, pour reprendre le mot Diderot, ou une philosophie peut être médiatique, pour reprendre votre mot, Adèle, pourvu qu'elle ne transige pas sur cela, elle ne doit pas être, malgré tout, au service. Elle ne doit pas être cette philosophie de service. Elle doit être ce qui nous permet d'échapper au statut de servile.
On va se quitter avec une dernière chanson, une chanson que vous aimez, The Cramps, Bikini Girls with Machine Guns. Pourquoi cette chanson ?
Ben parce que c'est un rockabilly incroyable, quoi. Et puis il y a une vraie pureté du son et de la guitare, quoi. Et puis ce qui est absolument génial quand même, c'est que Lux Interior et puis Poison Ivy, hein, qui était ce couple de Bonnie and Clyde du psycho rock and roll, étaient vraiment deux figures incroyables qui jouaient de leur posture de rocker et de rockeuse, et puis qui ironisaient sur leur propre figure. Finalement, c'est assez socratique. Moi, j'aime bien, dès lors que à la fois on ose prendre position et en même temps on n'hésite pas à se moquer d'elle, à la fois être là présent absolument et en même temps ne pas croire à notre présence là. Et il y a cela, hein, dans cette espèce de capharnaüm grand guignol qu'il y avait du côté des Cramps. Puis un putain de son, quoi.
On l'écoute ?
Ouais.
Un grand merci à Alain Guyard d'être venu nous parler de vous aujourd'hui.
Merci infiniment, chère Adèle, de m'avoir donné cette occasion.
On se quitte donc avec The Cramps et je renvoie les auditeurs à vos ouvrages publiés chez Le Dilettante et le dernier, Natchav. Partir, c'est ça ?
Partir, prendre la route, être à la décarade, à la dérive, les chemins qui n'en sont pas, la liberté, la philosophie.
Alors on y va avec les Bikini Girls. Bikini Girls with machine guns. Well, I say the man in foreign kinds of dead. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est grand temps de retrouver Anastasia Colosimo pour son journal de la philo.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Anastasia.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
C'est aujourd'hui un livre qui a retenu votre attention.
Oui, alors aujourd'hui j'aimerais revenir sur un livre paru il y a un an chez Albin Michel au titre évocateur et efficace. Désobéir, du philosophe Frédéric Gros. Si je vous en parle, c'est parce que grâce à une vidéo de Brut, Frédéric Gros est devenu une vraie star, une mascotte sur les réseaux sociaux. Je vous propose un petit extrait.
La démocratie, elle est faite d'un certain nombre de règles. Il y a des règles de distribution de la parole, il y a des règles qui sont des règles majoritaires. Et c'est, j'allais dire, c'est l'architecture même de la démocratie. Mais une démocratie ne peut pas vivre sans qu'il y ait de la part et à l'intérieur de chaque citoyen une vigilance perpétuelle par rapport au pouvoir. Et cette vigilance, je l'appelle la désobéissance.
Effectivement, en ces temps de troubles dans la démocratie, la question de la désobéissance et de son corollaire, la vigilance, paraît tout à fait essentielle. Je vous rassure tout de suite, le livre de Frédéric Gros n'est pas un manuel de rébellion, ni une longue digression psychologisante sur la révolte. Non. Désobéir est une interrogation profonde et argumentée, selon la vieille tradition socratique, du sens éthique qui anime chacune des personnes qui se plongent dans l'ouvrage. C'est là l'un des talents incontestables de son auteur, questionner le rapport du lecteur à l'obéissance et à la désobéissance, et lui montrer que l'obéissance ne doit pas être qu'une habitude politique et sociale, mais bien une décision éthique. Obéir à quelqu'un ou à quelque chose, c'est avant tout obéir à soi-même, écouter sa cohérence interne, être attentif à ses responsabilités et à son sens de l'humanité. C'est pour cela que désobéir peut parfois s'avérer nécessaire, justement pour préserver cette cohérence interne, ce sens de l'humanité, nécessaire à notre survie. Selon Frédéric Gros, son livre est une tentative de comprendre, en interrogeant les conditions éthiques du sujet politique, pourquoi il est si facile de se mettre d'accord sur la désespérance de l'ordre actuel du monde et si difficile pourtant de lui désobéir. Toute la difficulté est là. Il paraît souvent beaucoup plus simple d'obéir que de désobéir. Mais selon le philosophe, obéir, ça n'est pas seulement plus simple, c'est aussi, le plus souvent, salutaire, puisque c'est dans l'obéissance seulement qu'on se rassemble et qu'on se reconnaît. Frédéric Gros passe alors en revue les figures de la désobéissance de notre époque, les écoliers turbulents, les paresseux, les mauvais travailleurs, les voyous, toutes ces personnes qui sont des anormaux, des inadaptés, qui ne veulent pas obéir aux normes imposées par la société. Incapables de résister à leurs pulsions, ils sont impuissants à affirmer leur humanité. Seulement voilà. Le siècle précédent nous a aussi montré comment l'obéissance pouvait mener aux pires inhumanités. Ainsi, l'opposition entre l'homme et l'animal désobéissant a été remplacée dans la seconde modernité par l'opposition entre l'homme et la machine obéissante. C'est ici que Frédéric Gros rappelle la spécificité de l'homme qui ne peut jamais être réduit à un tissu de diverses influences déterminisme, mais qui est avant tout un être capable de ressentir, de penser et de juger.
Et donc il suffirait de se rappeler de cette spécificité de l'homme pour être capable de désobéir ?
Non, malheureusement. Souvent, désobéir paraît trop risqué, trop coûteux. Celui qui désobéit, c'est celui qui sème le désordre. En réalité, comme le montre Frédéric Gros, cette vision de la désobéissance, comme portant en elle le chaos, provient d'une idéologie bien précise. Certes, la hiérarchie est injuste et l'harmonie sociale un leurre. Mais désobéir, ça n'est que rajouter du mal au mal. On peut être lucide et même critique, mais il est toujours préférable d'obéir. Pour Frédéric Gros, cette obéissance-là est une surobéissance. Cette même surobéissance à laquelle s'attaque la Boétie dans son texte sur la servitude volontaire. Comme il y a plusieurs manières d'obéir, il y a aussi plusieurs manières de désobéir. Comme obéir à minima, résister de manière pacifique ou encore ne pas coopérer. Frédéric Gros ne lésine pas sur les exemples et revisite les grandes figures de la résistance, Antigone, Henri-David Thoreau, mais aussi les figures de l'obéissance aveugle en revenant longuement sur le procès d'Eichmann qui, lui, n'a cessé de revendiquer la moralité de son obéissance. Ce détour permet à Frédéric Gros de poser une question essentielle, celle du consentement. À quoi consent-on réellement dans une société ? Au fait d'obéir aux lois ou au fait de faire société ? Si l'on consent seulement à faire société, alors rien ne peut empêcher les citoyens de rejouer le contrat existant. Dans ce cas, selon les mots de l'auteur, la désobéissance civile réactualise ce qui n'a jamais existé, le consentement et la signature d'un contrat, et fait surgir ce moment d'origine où un collectif décide de son destin. Ce qui explique que certains sortent des rangs, décident de désobéir, de rompre le collectif pour lui redonner ses conditions de possibilité. Ce moment de désobéissance est un moment solitaire, un retour salutaire à soi pour mieux revenir vers les autres. Une fois les mécanismes de la désobéissance dévoilés, Frédéric Gros s'engage dans une méditation sur la nécessité de trouver le point d'équilibre, obéir dignement, désobéir éthiquement. Pour trouver cet équilibre, il faut avant tout du courage, oser penser par soi, oser rompre avec l'autre. Il en va donc bien plus d'une question éthique que morale. C'est là la conclusion de l'auteur, et elle est plus que jamais actuelle, notre existence et notre œuvre, à nous de nous en rendre dignes.
Et vous, Anastasia, vous obéissez dignement ou vous désobéissez éthiquement ?
Ça dépend des jours.
Ah. Bon, je vous repose la même question demain alors. À demain en tout cas, Anastasia.
À demain.
Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à Marie Simon qui a préparé cette émission, accompagnée d'Anaïs Isbert, Colomba Grossi, Isis Jourda, Sharon Houry, Géraldine Mosna-Savoie. À la réalisation cette semaine, c'était Philippe Baudouin et Milena Hellig. À la prise de son aujourd'hui, Jean-Guy Lamage. À la lecture des textes, Ophélia Kolb. On se retrouve lundi pour une nouvelle série des chemins de la philosophie. On vous emmènera au Japon, de l'éthique des samouraïs à l'empire des signes de Roland Barthes. Du cinéma de Miyazaki jusqu'à la philosophie japonaise. La semaine prochaine, nous irons loin, bien loin, en votre compagnie. D'ici là, pour écouter cette émission Profession Philosophe, avec Alain Guyard, ainsi que celle de cette semaine sur le thème de Narcisse, c'est très simple, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, et quand vous voulez, à l'heure de votre choix, et dans la compagnie de votre choix. On vous donne également rendez-vous sur les réseaux Instagram, Facebook, Twitter, où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve lundi à 10h, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.